À son tour, il fait appel aux spécialistes en relations publiques.
I am authorizing the Reconstruction Finance Corporation to buy or sell gold.
Les Fireside Chats étaient conçus pour rendre un système indéchiffrable compréhensible pour les gens.
Pour faire comprendre l'utilité de ces dispositions, l'administration Roosevelt engage une équipe de photographes et d'écrivains réputés pour montrer au peuple américain les effets de la crise sur le pays.
Ce n'était pas une bande d'attachés de presse venus de la publicité ou des relations publiques. C'était des gens qui avaient beaucoup réfléchi à l'utilisation des images pour que les gens soient plus intelligents qu'ils ne l'étaient.
Le peuple américain découvre une Amérique qu'il ne connaissait pas. La force émotionnelle et symbolique de ces images marque les esprits.
Il y a eu une résurgence de l'idée qu'il ne fallait pas forcément séparer l'émotion de la raison. Dans une certaine mesure, c'est la fabrication du consentement, mais avec une tentative de créer un consentement informé. Il n'y a rien de mal à vouloir être persuasif, tant que la persuasion n'est pas une manipulation, une volonté d'empêcher les gens de voir la réalité. Il a été décidé de créer une alliance entre les ouvriers et une classe moyenne en déroute contre les riches et les grandes entreprises. Peer voyait le New Deal comme une catastrophe.
Presque toutes les grandes entreprises américaines adhéraient à l'Association nationale des industriels. Et leur principal programme à l'époque était un programme de relations publiques.
Ils ont décidé qu'ils devaient vendre l'idée que les entreprises privées étaient la clé d'une vie réussie, que Roosevelt voulait plutôt promouvoir grâce à l'intervention du gouvernement.
Les campagnes du NAM s'attachent à vendre une vision idéalisée de la société que les Américains ne manqueront pas de désirer. Là où Roosevelt s'appuie sur la réalité, le NAM vend du rêve. Là où Roosevelt s'adresse aux citoyens, le NAM parle aux consommateurs.
C'est dans l'ADN américain. On n'aime pas le gouvernement. On aime les entreprises privées.
Ils présentaient la libre entreprise comme on parle de liberté, de démocratie et de justice. Ils vendaient un rêve, mais ils l'emballaient dans les valeurs américaines.
Le capitalisme et les bienfaits de la consommation sont vendus pendant plus de 20 ans comme les fondements du rêve américain.
Ceux qui lançaient ce type de projet avaient une vision à long terme. C'est-à-dire que, même s'ils savaient qu'ils ne verraient sans doute pas de leur vivant la concrétisation de leurs désirs et de leurs objectifs, ce n'était pas grave. Ils étaient prêts à ce que ça s'étale sur plusieurs générations.
La ville de New York elle-même qui sert de vitrine médiatique à l'American Way of Life. Pour la première fois, la ville accueille une exposition universelle. Cette manifestation est l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire industrielle. Son principal organisateur n'est autre qu'Edouard Bernays.
Le rôle de Bernays a été de promouvoir l'exposition universelle et les différents pavillons et de faire venir de grandes entreprises comme General Motors, qui avait été son client dans les années 1930. Il appelait l'exposition « Democracy ». Il voulait fusionner la démocratie et le capitalisme.
Les gens adorent ça, parce que dès qu'on commence à parler de demain, on peut inventer ce qu'on veut. Exposition universelle, il y a eu un documentaire sur une famille du Middle West.
Hello, Mr. Middleton, how are you?
Full of Jim.
Le fils est socialiste et la fille qui vit à New York a une liaison avec son prof d'art plastique qui est un communiste.
Isn't it wonderful, Nick?
Beautiful.
L'histoire s'appelle « Les Middleton vont à l'exposition ». On les suit pendant leur visite, notamment dans le pavillon Westinghouse, parce que la compagnie d'électricité Westinghouse sponsorisait le film. Grand-mère s'émerveille de tout ce qui va arriver dans la cuisine, et elle est persuadée que l'ancien mode de vie n'est rien comparé à celui du futur. Ça nous montre qu'en découvrant un avenir industriel vraiment fun, le jeune homme abandonne ses idées anticapitalistes et devient une sorte de chantre du capitalisme. Du coup, les gens n'avaient plus qu'une seule vision de la démocratie possible, une démocratie capitaliste.
Présente, ces campagnes de communication soulèvent néanmoins des interrogations. Certains dénoncent ouvertement la manipulation des esprits par les relations publiques. Une accusation qui s'adresse parfois directement à Edward Bernays.
La plupart des gens auraient très mal pris ce type d'accusation et auraient été offensés, mais Eddie Bernays a adoré. Ça montrait qu'il avait un réel pouvoir pour influencer l'opinion publique, et il avait toujours estimé que ce n'était pas une chose négative. Il se voilait beaucoup la face. Il pensait agir le plus souvent pour le bien commun.
Ce n'est pas une concurrence libre, parce qu'elle coûte cher. Dans ce type de situation, ceux qui ont le plus de ressources, comme les grandes entreprises et parfois les gouvernements, gagnent à tous les coups, simplement parce qu'ils ont plus de moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent en termes de résultats, mais ils partent avec plus d'atouts. Les gens ordinaires qui voudraient faire de la propagande dans cette concurrence soi-disant libre auront systématiquement moins de force de frappe et de moyens que les puissants.
Suspend les débats sur le rôle des relations publiques. La propagande de masse reprend pour soutenir l'effort de guerre avec les mêmes techniques que celles utilisées 20 ans plus tôt par la commission Krill.
Bernays a conseillé le gouvernement américain sur la manière d'utiliser les relations publiques et la propagande, mais il n'a jamais eu de rôle aussi central que pendant la Première Guerre. En partie parce que les relations publiques et la propagande étaient des outils mieux compris à l'époque, et que le gouvernement avait ses propres agences de propagande.
Les grands industriels vont voir dans la guerre un formidable outil de communication pour relancer leur campagne sur l'American Way of Life.
Les publicités regorgeaient d'images de ce qui attendait les Américains après la guerre. Parfois même dans une boule de cristal, c'est-à-dire un objet qui permet de voir l'avenir. Et cet avenir était un monde d'abondance et de consommation dès que la guerre prendrait fin.
Juste après la Deuxième Guerre mondiale, le monde des affaires a lancé une vaste offensive pour tenter de faire reculer les composantes progressistes du New Deal.
Soutenu par l'industrie des relations publiques et Edward Bernays lui-même, s'explique par une reprise sans précédent des revendications sociales. De 1945 à 1946, près de 10 millions d'ouvriers descendent dans la rue et paralysent une grande partie du pays. En réaction, les grands industriels imposent au nouveau président Harry Truman une loi qui limite le droit de grève et le pouvoir des syndicats. Puis, il confie la mission aux professionnels de la communication de faire passer les contestataires pour des citoyens opposés aux vraies valeurs de l'Amérique.
Dans les années 1950, il y a eu des campagnes massives qui ont été très étudiées d'ailleurs, pour prendre d'assaut les écoles, les universités, les ligues sportives, les églises et les usines, et leur imposer des cours pour inculquer l'américanisme, l'harmonie et la lutte contre l'ennemi. Bien sûr, l'anticommunisme a été utilisé à cette fin.
Celle de voir les Russes envahir le pays ou déclencher une guerre atomique.
Duck and cover. Duck and cover.
Est directement utilisée par les spécialistes de la communication pour défendre des intérêts strictement privés. Au début des années 50, c'est un petit pays paisible qui va incarner à lui seul l'ennemi communiste qu'il faut abattre. Le 15 mars 1951, Jacobo Arbenz est démocratiquement élu président du Guatemala. L'une de ses premières décisions est de nationaliser, contre compensation, les terres non cultivées du pays pour les redistribuer aux paysans pauvres. Mais les trois quarts de ces terres appartiennent à l'une des plus grandes multinationales des États-Unis. La United Fruit Company représente une sérieuse menace pour ses intérêts. Une contre-attaque médiatique s'impose. elle est confiée à l'un de ses principaux conseillers, Edward Bernays.
Pour le compte de la United Fruit Company, Eddie Bernays a réussi à persuader la plupart des Américains et une grande part des Guatémaltèques que le gouvernement de gauche, qui venait d'être élu et voulait réformer un système économique archaïque, était en réalité la tête de pont de l'URSS. Eddie Bernays a lancé une campagne de guerre psychologique encore plus profonde et plus efficace que celle organisée pour le gouvernement américain pendant la Première Guerre.
Edward Bernays a d'ailleurs défini sa campagne de propagande par une expression empruntée à la guerre. Le Media Blitz.
Media Blitz signifie généralement qu'on passe son temps au téléphone avec différents journalistes influents et qu'on leur fournit très régulièrement la matière de leur reportage. Bernays a créé son propre bureau d'information et de dépêche sur le thème unique du Guatemala.
Ça a contribué à convaincre le gouvernement américain qu'il devait intervenir dans les affaires du Guatemala.
Le président Arbenz est renversé par les forces rebelles de Castillo Armas avec le soutien décisif de la CIA. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une guerre civile qui durera 40 ans.
Seulement pour le Guatemala, mais aussi parce que ça a inauguré un nouveau schéma de politique extérieure. C'était normal pour les États-Unis d'intervenir et ils pouvaient avoir de bons résultats. Ça n'a pas marché avec Cuba, alors qu'on pensait pouvoir renverser le régime castriste. Ou des années plus tard au Vietnam, quand on a cru pouvoir imposer un gouvernement qui nous était favorable au Sud-Vietnam.
Quand on a des gens qui voient leur rôle, comme c'était le cas de Bernays, comme des ingénieurs du consentement, la démocratie devient une mascarade.
Ce n'est pas juste une question d'argument et de persuasion, c'est une modification de la société. C'est l'essence de la propagande. C'est l'essence des relations publiques. Il s'agit de promouvoir et de concrétiser des objectifs et des intérêts pour des commanditaires. Et ces gens sont principalement des intérêts puissants, de grandes entreprises et des gouvernements.
Quels sont les buts qu'on poursuit? Est-ce qu'on travaille pour un client? Et si ce client n'est pas représentatif de la population globale, alors on a un problème. Ça veut dire que des intérêts privés ou un petit nombre de personnes créent des fictions publiques. Et les considèrent de la plus haute urgence, ce qui leur permet de foutre le bordel dans nos cerveaux.